Chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous aimez le poil à gratter. En tout cas, l'évangile, s'il y a des évangiles poil à gratter, si vous me permettez l'expression, l'évangile d'aujourd'hui en fait vraiment partie. Parce qu'il va tellement à l'encontre de la mentalité de notre société que, voilà, il n'est pas si facile à entendre. Je le vois au moins trois raisons pour lesquelles c'est du poil à gratter. D'abord, Jésus se réfère au commencement de la création. Mais dans notre société, on ne se préoccupe pas trop de ce que Dieu a voulu. C'est ce que nous voulons. C'est ça qui est intéressant, ce que Dieu a voulu. Bon, ça, c'est une autre chose. Première raison d'être poil à gratter. Deuxième raison, Jésus demande aux époux de faire un. Ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Dans notre société individualiste, c'est pas si facile que ça à entendre. Et troisième raison, Jésus est contre le divorce. Alors, je sais pas combien il y a de pays qui sont contre le divorce, mais il doit pas y en avoir beaucoup. Alors, comment accueillir cet évangile de Jésus qui est une bonne nouvelle? Alors, je vais reprendre ces trois points que je viens d'évoquer. D'abord, d'accueillir le dessein de Dieu. La première chose qui m'a frappé en entendant ce passage d'évangile, c'est que les pharisiens et Jésus abordent les choses d'une manière diamétralement opposée. Ils prennent pas par le même bout de la lunette, si vous voulez, en quelque sorte. Les pharisiens s'inscrivent dans une forme de tradition où, voilà, ils s'adaptent à la situation concrète, ils voient bien qu'il y a des hommes qui abandonnent leurs femmes, ou voilà, et alors ils gèrent la situation du mieux qu'ils peuvent, bon, pour que la femme ne se retrouve pas trop dans la panade. Ils imposent à l'homme de rédiger un acte de répudiation. Bon, mais ils gèrent la crise en quelque sorte. Ils essaient d'atténuer le mal autant qu'ils peuvent, voilà. Et finalement, dans notre société, on essaie de gérer les crises. Gérer les crises ou gérer les difficultés. Parce qu'il y a des vraies difficultés, il y a des vraies souffrances. Je pense au début de la vie, je pense à la fin de la vie. C'est pas forcément très simple d'accompagner quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie ou d'accueillir un enfant dans des circonstances difficiles. C'est pas forcément très simple, ça on peut reconnaître. C'est pas forcément très simple d'accompagner des gens qui ont une orientation sexuelle compliquée. Alors donc, on reste dans cette ligne. En quelque sorte, bon, on gère la crise, on essaie de faire comme on peut et puis voilà. Jésus prend les choses par l'autre bout de la lunette, si vous me permettez. Et il invite à sortir de cette petite cuisine qu'on essaie de faire pour s'adapter comme on peut, et d'entrer dans une forme d'attitude contemplative. Avant d'essayer de bricoler, arrêtez-vous et contemplez, c'est un peu ce que nous dit Jésus. D'ailleurs, l'auteur du livre de la Genèse, hein, que nous avons entendu dans la première lecture, parle du sommeil d'Adam. Et dans cette image du sommeil est reprise à différents moments dans la Bible. Alors, c'est un sommeil mystérieux, ou en grec, ils le traduisent quelquefois par extase. En tout cas, c'est un moment où l'homme il s'arrête, c'est Dieu qui travaille. Et parce que c'est une action tellement grande que, voilà, l'homme est un peu dépassé et l'homme est appelé à recevoir ce que Dieu fait pour lui. Et donc, à la suite de ce que nous dit Jésus, avant de vouloir manipuler en quelque sorte la réalité, nous sommes appelés à nous arrêter pour contempler. Mais pourquoi finalement Dieu a-t-il voulu les choses comme ça? Pourquoi a-t-il voulu qu'il y ait des hommes et des femmes? Il aurait pu faire des hommes unisexe, ça aurait été plus simple, peut-être. Et je pense que vraiment Jésus nous invite d'abord à entrer dans cette attitude contemplative, cette attitude où on essaie de comprendre, on essaie de, avant de vouloir nous débattre pour agir, essayer de, qu'est-ce que Dieu a désiré. Alors, certainement, Dieu a voulu faire prendre conscience, hein, dans la première lecture, on voit que l'homme éprouve douloureusement sa solitude. Et il a dû faire... Donc l'homme a pris conscience qu'il ne se suffisait pas à lui-même, et ça c'est quelque chose d'important. Mais ensuite, quand Dieu lui fait une petite opération chirurgicale, et puis voilà, il façonna une femme et l'amena vers l'homme. Et alors, aussitôt, l'homme dit, « Ah, cette fois-ci, voilà, l'os de mes os, la chair de ma chair. » On le voit très heureux. Et le texte de la parole de Dieu nous dit que Dieu plante, en quelque sorte, la femme devant, vis-à-vis, de l'homme. Ça nous rappelle en quelque sorte le prologue de l'évangile de Saint Jean, vous vous rappelez, hein, le verbe qui est tourné vers le Père. Voilà, Dieu a voulu un interlocuteur pour l'homme. Voilà, donc première chose que je voulais dire, avant de nous activer, arrêtons-nous pour contempler ce que Dieu a voulu faire. Deuxième chose, deuxième raison pour laquelle cet évangile était poil à gratter, c'est que Jésus dit de l'homme et de la femme, tous deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Alors, Jésus ne parle pas uniquement de l'union charnelle. Benoît XVI exprimait aussi ça, cette union, de manière, je trouve, très heureuse, quand il disait « À l'image du Dieu du monothéisme correspond le mariage monogamique. Le mariage fondé sur un amour exclusif et définitif devient l'icône de la relation de Dieu avec son peuple et réciproquement. » La façon dont Dieu aime devient la mesure de l'amour humain. Cette unité de l'homme et de la femme qui évoque, d'une certaine manière, l'unité au sein de la Trinité aussi. Alors, être un, il y a des ambiguïtés, hein, sur cette unité, il ne s'agit pas de tomber dans une sorte de fusion où il y a certaines boutades. Quelqu'un qui dit une seule chair peut-être, mais chacun dans sa peau. Ou Sacha Guitry, dans le mariage, l'homme et la femme ne font qu'un, mais la question c'est lequel. Donc l'unité, c'est pas forcément très très simple, en tout cas c'est pas une fusion. Ça signifie pas d'être toujours ensemble, de faire tout ensemble, d'être toujours d'accord, d'avoir que des amis communs, que des loisirs communs, voilà. C'est pas être un, c'est pas penser ou parler à la place de l'autre. Ça veut pas dire aussi que voilà, qu'il faut forcément tout se dire, la transparence absolue. Parce que, vous voyez, dans le récit de la Genèse, on voit bien qu'il y a une certaine distance qui, justement, permet de se parler, d'être en vis-à-vis. Donc, et cette unité ne veut pas dire, bien sûr, la fusion. Cette unité, c'est aussi quitter une forme d'individualisme. On recherche son propre épanouissement, on cultive son ego, où on est enfermé en soi-même. Benoît XVI parlait aussi d'un exode qui était douloureux pour chacun d'entre nous, de sortir de soi-même. Et que le chemin de l'amour est un chemin d'exode qui, à certains moments, peut nous coûter. Voilà. Et justement, le couple est vraiment un lieu privilégié pour vivre cette communion, à la fois d'être vraiment soi-même, hein, parce que dans la Bible, et Dieu nous aime personnellement, et même si vous êtes marié, vous êtes appelé à avoir une prière personnelle, et puis les épreuves, même si l'autre se fait très proche, bon, on le vit quand même assez personnellement. Chacun la vit de façon un peu différente. Mais du coup, voilà, le couple, c'est un lieu privilégié pour vivre à la fois d'être vraiment soi-même et à la fois dans sa différence avec l'autre. C'est où on est, où les conjoints sont appelés à vivre la communion, un peu comme à l'image de ce qui se vit dans la Trinité. Donc, poil à gratter parce que, voilà, ça nous ramène une attitude contemplative du dessein de Dieu et non pas du projet de l'homme. Une attitude aussi qui est de l'ordre de la communion et non pas de l'individualisme. Et troisième manière, c'est qu'il s'agit de construire cette unité. Une illusion serait de penser que l'unité est donnée le jour du mariage et que surtout il faut essayer de pas la préserver jusqu'à la fin des jours. Mais c'est pas ça l'unité. Alors bien sûr, Dieu scelle un lien indissoluble entre les époux le jour du mariage. Mais l'unité, elle est qu'à son début. Vous avez peut-être entendu parler d'une émission, la télé-réalité, là, de Marié au premier regard. Voilà. Désolé, mais c'est une façon très infantile de voir les choses. D'ailleurs, si ils regardent tout ce qui est compatible entre les partenaires, on va dire comme ça. Le résultat n'est pas très brillant au niveau de la fidélité. Pourquoi ? Parce que l'unité, elle n'est pas donnée. Une fois pour toutes, elle se construit. Dans notre vie chrétienne, on dit souvent « devenez ce que vous êtes ». Il y a une grâce d'unité qui est donnée. Mais après, il faut qu'elle fasse son chemin en nous. Et ça ne se fait pas tout seul. Il faut coopérer à la grâce. La grâce nous précède, mais encore faut-il coopérer à cette grâce. Sinon, on ne va pas très loin. Donc, il s'agit de construire cette unité. L'unité, il y aurait peut-être deux manières, pour être un peu simpliste, de manière de la faire. De l'extérieur, on met une ficelle, hein, comme autour d'un fagot, comme ça on maintient les choses entre elles. On met des barrières, ou voilà. Mais c'est pas l'unité à laquelle Jésus appelle. Construire l'unité, c'est la construire de l'intérieur. Et une bonne façon de la construire, il y a sans doute plusieurs ingrédients à cette unité, mais c'est de cultiver l'émerveillement qu'Adam avait vis-à-vis d'Ève au moment de la création. Ah, cette fois-ci, voilà, l'os de mes os et la chair de ma chair. Et on voit donc, c'est de cultiver cet émerveillement qui est vraiment qui aide à cette unité intérieure. Et puis, d'une autre manière, on construit l'unité, mais on la répare aussi. Alors, je vous cite Raniero Cantalamessa. On peut apprendre l'art du raccommodage, de remplacer la mentalité du jetable par celle du raccommodage. Saint Paul nous invite à nous pardonner quand on s'est fait mal, etc. Et finalement, à travers ce processus d'accro et de raccommodage, de crise et de dépassement de crise, voilà, le mariage se fane pas, mais s'améliore, s'affine. C'est comme un chemin de purification pour un amour de plus en plus gratuit et désintéressé. Au début, peut-être les épouses s'aimaient pour la satisfaction que cela leur procurait, et après, petit à petit, ils s'aiment davantage d'un amour de tendresse, de compassion. Voilà, donc trois raisons pour lesquelles l'évangile de ce jour est du poil à gratter. Donc nous sommes invités à cette contemplation, à cette communion et à cette construction de l'unité. Un texte de référence souvent pour les mariages, et je conclue par là, c'est les noces de Cana. Au bout d'un moment, il n'y a plus de vin. Et ça parle bien pour les mariages aussi, pour l'amour, pour l'unité aussi dans les couples. À un certain moment, bon, on n'y arrive plus. Alors, c'est le moment de se tourner vers Marie, même ils ne l'ont pas demandé, c'est Marie qui a vu à Cana, mais de demander à Marie, intercède auprès de Jésus, parce que là, il nous manque un petit peu de carburant pour aller plus loin. Alors, demandons à Marie d'aider tous les couples pour qui c'est compliqué, afin qu'ils puissent avoir cette grâce de l'unité, de pouvoir continuer à construire ou raccommoder cette unité. Amen.